J'ai le plaisir de recevoir ce soir Audran, directeur du Temps Machine et de Terre du Son, et Marilyn, programmatrice des deux structures également. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous venez nous voir ce soir dans l'émission afin de parler de l'édition 2020 du festival Terre du Son. Voilà, des conséquences du Covid et puis voilà, des retombées, des éventuelles solutions pour la reconstruction. Mais alors, on va, pour commencer, parler un petit peu du festival. Voilà, du Festival d'Art du Son. C'est un festival qui va avoir 16 ans cette année, en 2020, malgré l'annulation. Et bon, pour recentrer un petit peu, c'est un festival familial, éco-responsable, solidaire, mettant en avant des artistes locaux, nationaux ou encore internationaux. 3 jours, donc, qui devaient avoir lieu les 10, 11 et 12 juillet 2020. Mais voilà, pour commencer, cette année devait être un petit peu particulière. Est-ce que vous voulez bien, pour commencer, nous présenter un peu, nous expliquer un petit peu en quoi devaient consister ces changements pour l'édition 2020 ?
Oui, là, effectivement, sur cette année, on avait prévu de remettre un petit peu à plat tout le projet du festival pour des raisons à la fois de renouvellement dans les équipes, hein, puisque moi, ça fait 2 ans que je suis le directeur. Marilyn est arrivée à peu près en même temps que moi. Donc voilà, il y avait à la fois une envie de faire évoluer les choses et puis une réalité économique un peu complexe sur le milieu des festivals qui ne concerne pas uniquement Terre du Son, mais voilà, tous les festivals associatifs, indépendants, on va dire qui ont une logique désintéressée, qui ne reversent pas plein d'argent à des méchants actionnaires. Tous ces festivals-là sont confrontés à une évolution du contexte économique qui est très difficile, c'est-à-dire qu'en gros, le coût des spectacles ne fait qu'augmenter de manière exponentielle depuis plusieurs années. Et donc, il est de plus en plus difficile de tenir des festivals du type de Terre du Son, avec quand même une jauge assez importante et vraiment tournée vers le grand public, sans avoir franchement repenser un peu le modèle et reposer les choses à plat.
Oui, un ticket d'entrée relativement bas.
C'est ça, exactement, avec quand même une volonté de pouvoir accueillir un public large, de ne pas être sur des billets à 150 ou 200 euros, comme on peut le voir ailleurs, mais de rester dans quelque chose qui nous semble en tout cas assez accessible, avec une politique plutôt ouverte à ce niveau-là. Et en même temps, avoir plein de choses différentes, pas uniquement programmer 3 têtes d'affiche et puis mettre une friteuse et un bar à bière, mais quand même avoir un truc, vraiment du contenu avec beaucoup de groupes émergents, beaucoup de groupes locaux, mais aussi une scène émergente internationale aussi. On n'a pas envie de se tourner uniquement vers le local, même si c'est une partie très importante de la prog. Et puis aussi avec quand même des engagements forts qui ont un coût en tant que tel, hein, qui sont des engagements en faveur, on va dire, généralement de l'environnement et qui ne donnent pas non plus trop de place aux marques sur le festival, ce qui effectivement est un... On va dire, nous retire des financements possibles. Voilà. Donc cette année, il y avait quand même une volonté de remettre un peu à plat tout ça et de faire un petit peu évoluer la formule pour que le projet tienne, en fait.
Et alors, selon vous, du coup, de quoi est-ce que ça vient justement ces changements dans les gros festivals ?
Les changements économiques ? Ah bah, ça vient d'un contexte économique international, en fait. Ça vient d'une concentration de plus en plus importante dans le milieu du spectacle vivant et de la musique live surtout, hein. C'est-à-dire des grands groupes, pour les citer comme Live Nation ou autres, qui sont des groupes américains qui détiennent à la fois un nombre énorme et croissant dans certains pays, quasiment très, très majoritaire, de salles de concert, mais aussi de festivals, de lieux de diffusion, qui ont aussi un catalogue d'artistes qui fait que croître, et qui par ailleurs maîtrisent tout l'environnement, hein, de la billetterie au merchandising, tout ce qui constitue le live en fait, est détenu par les mêmes entreprises qui du coup ont un poids tellement énorme qu'elles peuvent asphyxier des petites structures indépendantes comme les nôtres. Voilà. Donc forcément, quand on se retrouve, nous, association du d'Indre-et-Loire, à négocier sur certains, avec ce type de structure-là pour leurs artistes, pour l'achat de spectacles, on se retrouve forcément à avoir plus de difficultés à négocier qu'avec des structures plus indépendantes qui sont dans un environnement plus proche du nôtre.
Oui, puis je pense qu'il y a aussi la mort du disque, entre guillemets. C'est qu'à un moment donné, c'est des manques à gagner qu'il faut bien rattraper quelque part et qui se rattrapent énormément sur le live depuis quelques années. Donc c'est vraiment exponentiel. C'est chaque année, ça prend entre, je sais pas, 10, 15, 20%.
Et puis vraiment, c'était ce caractère exponentiel concerne évidemment les têtes d'affiche. Oui. Alors parfois des têtes d'affiche, on va dire forcément des gens qui sont connus depuis des années, etc. Mais parfois aussi des gens qui sont encore émergents, qui n'existaient pas pour le grand public il y a un an ou deux, qui maintenant sont déjà des prix faramineux. Ce qui fait que c'est de plus en plus difficile d'attirer, de rentrer dans cette course-là. Quoi.
Après, ouais, sur les artistes émergents qui coûtent un peu cher, on va dire, c'est vraiment visible dans tout ce qu'on appelle musique urbaine. C'est que, du jour au lendemain, comme ils vendent beaucoup.
Après, ça se joue aussi sur les vues, j'imagine.
C'est ça, oui, c'est le nouveau. C'est le nouvel argument maintenant. Mm-hmm. Oui, non, mais on fait 2 millions de vues. Oui, d'accord, mais bon, après, comment ça se traduit sur le terrain? Est-ce que vraiment ça déclenche l'envie aux gens de venir le voir? Effectivement, sur les musiques urbaines, c'est assez vérifiable.
D'accord, donc changement de modèle économique, clairement. Et alors, qu'est-ce qui allait changer concrètement sur la plaine Terre du Son?
C'est plus un ajustement qu'un grand changement. On avait quand même conservé la même taille de site, ce qui était prévu, donc quand même assez grand. Hein. On a une jauge de 15 000 personnes, mais si on a 15 000 personnes, il y a encore pas mal de place. C'est vraiment tourné vers le confort des gens, qu'on puisse déambuler librement et pas être les uns sur les autres comme dans une boîte de sardines. Donc il y avait toujours cette idée de bien accueillir et d'avoir quand même une offre importante. C'est-à-dire plusieurs scènes, une scène vraiment tournée vers le local, une scène chapiteau qui est vraiment plus justement vers l'émergence nationale et internationale, avec des choses qui sont vraiment pour le coup avec l'envie de faire découvrir des styles, des groupes un peu atypiques, etc. Et par contre, ce qui changeait, c'est qu'on réduisait le nombre de grandes scènes pour avoir qu'une seule scène plus importante et pouvoir en fait tout simplement mettre des artistes qui soient suffisamment forts pour remplir, on va dire, notre jauge et garantir une forme d'équilibre économique, quoi.
Oui, et puis il y avait aussi l'idée de s'associer un peu plus aussi avec le tissu associatif local, d'avoir un peu plus des espaces sans système ou comme la plage l'année dernière qu'on avait eue avec Novecinco.
D'autres espaces, d'autres...
Voilà, d'autres espaces et aussi des sortes de dance floor, j'ai envie de dire. Si t'aimes pas IAM, par exemple, et que t'as pas envie de voir un énorme groupe, tu sais que tu peux quand même t'amuser. Mais on s'est beaucoup questionné aussi sur les temps de pause, parce que dans les festivals, il faut toujours qu'il y ait de la musique tout le temps. Et c'est vrai qu'on s'est vraiment posé la question, en dehors du modèle économique, de est-ce que vraiment, à tout prix, il faut vraiment qu'il y ait tout le temps quelque chose qui se passe tout le temps. Tu vois, je trouve que c'est des vraies questions. Et voilà. Après, je pense que physiquement, il y aurait eu des changements. C'était un peu le but. À voir l'année prochaine si ces changements sont gardés, parce que forcément, une année blanche, mais ça, on en discutera peut-être tout à l'heure.
Non, pas trop vite.
Et alors oui, forcément, on va y venir. Donc voilà, il y a eu cette période de confinement qu'on a tous vécu. Donc confinement...
C'était super.
C'était lié donc à l'annulation du festival. Comment est-ce que ça s'est passé, du coup, pour Terre du Son, le Temps Machine également, du coup?
Pour le Temps Machine, c'était ce qui est évidemment très différent parce que le rythme n'est pas le même et qu'on a dû annuler une date. Déjà, c'était, je crois, le 15 mars. On a dû annuler le matin pour le soir et en se disant qu'on annulait le week-end, le premier week-end.
Vendredi 13 mars.
Ouais, c'est ça, ouais. Le 13, ouais.
Ouais.
Ouais, on devait faire le temps d'un disque d'ailleurs aussi.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et puis on s'est dit on annule ce week-end et puis on en reparle lundi. On a annulé assez vite tous les concerts de mars et puis après on s'est rendu compte qu'il faudrait aller jusqu'à avril. Mais tout ça à chaque fois donne lieu à beaucoup de débats parce qu'en fait on avait des infos qui arrivaient au compte-gouttes qui étaient parfois un peu contradictoires avec des points de vue des fois très pessimistes et puis parfois beaucoup moins. Et puis surtout un grand flou artistique, quoi. Donc on a commencé. On a annulé petit à petit, et puis au bout de, je dirais, vers mi-avril, on s'est rendu compte qu'on pourrait plus aller jusqu'à juin, on était grillé, on va dire, pour le Temps Machine. Sur toute la fin de saison. Après, nous, on a surtout, donc le mars-avril, c'est vraiment des mois où on a énormément de groupes, énormément de programmation. On a un festival, on a Superflu avec le Petit Faucheux, on a aussi un événement spécifique sur le fanzine, juste une impression. Enfin, là, il y a des événements spécifiques sur lesquels on travaille depuis longtemps, en plus d'une programmation qui est déjà assez riche. Donc, vraiment, annuler ça, ça a été très compliqué. Après, sur le Temps Machine, on a pu quand même reporter beaucoup de dates. Sur l'automne, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais après, en fait, vu que la crise et le calendrier de la crise a fait que bouger,
oui, il a fait que...
On se retrouve encore dans une situation où on a des incertitudes sur la rentrée.
Puis disons que concrètement, évidemment, c'est une situation inédite, personne ne l'a vécu jamais. Et en fait, ce qui est hyper étrange, c'est de déconstruire tout ce que tu as construit. Donc, sur le papier, en fait, j'ai une amie qui est programmatrice aussi qui disait on est déshabillé de nos fonctions. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est que tous les aspects un peu chouettes de notre travail disparaissaient complets pour laisser place à un travail super fastidieux, horrible et assez déprimant, finalement, parce que... Ben parce que tu reportes sans savoir vraiment si les concerts vont pouvoir avoir lieu. Parce que on est en train déjà de se poser la question si vraiment à la rentrée... Enfin, il y a eu une espèce d'élan optimiste national, mais là, tout le monde revient un peu en arrière. Donc,
on calme le jeu parce qu'il reste quand même 2 mois et on ne sait pas
comment c'est ça va se passer. Et puis après... Pour parler du temps machine, enfin pour moi, il y a vraiment la question de si on reporte à l'infini, qu'est-ce qu'on fait des groupes émergents qui arrivent ou des groupes qui ont prévu des tournées en 2021, comment on arrive à agencer tout ça en soutenant tout le microcosme, on va dire, des musiques actuelles, mais sans favoriser l'un ou l'autre. Enfin, c'est très, 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 très compliqué. Et notamment, enfin, on n'a pas parlé sur du festival. Donc, le festival, c'était d'autant plus compliqué qu'on n'avait pas complètement fini la programmation. Qu'on n'avait pas annoncé tous les groupes.
Oui,
donc,
ça devait être début avril.
Ouais. Oui, c'est ça. C'est qu'en plus, voilà, moi, il y a des choses que... Enfin, l'équipe sait qu'il y avait des choses qui devaient sortir qui ne sortiront peut-être pas. Et en plus, il y avait vraiment la question du report. Donc, beaucoup de festivals ont choisi de reporter avec le ticket.
En 2021.
En 2021. Okay. Et nous, on a rapidement pris le parti de pas reporter parce que ça nous... Il y avait trop de contraintes, en fait. Vu que budgétairement parlant, une année blanche, c'est compliqué pour un festival quasi autofinancé. Donc là, on se, ouais, c'est un, quand même un assez un coup dur, quoi. Je veux dire.
Et la prise de décision d'annulation du coup sur le festival a été hyper compliquée parce que forcément, en plus, c'est vraiment associatif, donc on est quand même assez nombreux à être très investis dedans et pas seulement une équipe salariée. Hein. On a des bénévoles qui suivent et qui s'investissent beaucoup à l'année depuis le début, pour certains depuis plus de 15 ans. Donc forcément, on arrivait à ce constat d'une annulation. Et puis après avoir quand même beaucoup retravaillé sur la refonte du projet, voilà, on y a consacré tous beaucoup de temps, beaucoup de nos soirées à l'automne et on arrivait à devoir finalement mettre un peu tout ça en pause. Ça a été difficile. Et puis ça a été d'autant plus difficile que les informations officielles ont été en général très, très parcellaires. Parfois très contradictoire, hein. On va revenir sur des prises de parole du ministre de la Culture qui parfois va pas forcément jouer le rôle qu'on attendait. Enfin, en tout cas, il y a des choses très très contradictoires qui ont fait que chacun avait finalement son point de vue sur la question. On n'avait pas une vision très claire de ce qu'on pouvait faire. Et puis même encore aujourd'hui, on se pose plein de questions.
En termes de au niveau national, peut-être avec d'autres festivals, des syndicats, est-ce que vous avez pu avoir d'autres informations que celles qui étaient données par le gouvernement?
Nous, on est membre d'un syndicat qui s'appelle le SMA, qui, je pense, a jamais autant travaillé que pendant les derniers mois, parce que tous les jours, ils nous font un point à la fois juridique, social et politique. Mais en général, clairement, il y a eu beaucoup de sujets plus techniques, mais sur les notions de sécurité, ils n'avaient pas plus d'infos, parce que je pense que les infos, il y a des grandes décisions qui sont prises, et puis après, leur mise en œuvre, parfois mettre 2-3 semaines, voire plus, à arriver, parce qu'en fait, il faut rentrer dans le détail, et puis c'est dans le détail que la complexité arrive, et finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément de vision claire de ce qu'on peut faire. Donc là, maintenant, on est dans une situation où on sait qu'on peut organiser des choses. D'ailleurs, on va le faire. Mais c'est quand même pas toujours très très, très, très simple parce qu'en fait, on a l'impression qu'on ne va pas forcément nous interdire de faire des choses, mais on ne va pas forcément nous interdire ou nous autoriser à les faire non plus. Ou alors, Donc finalement, on se retrouve à avoir pas mal de poids sur les épaules sur ces questions sanitaires. Parce que c'est pas très très clair, en fait.
Vous êtes un peu laissé dans le flou de dire faites si vous avez envie de faire et puis voilà.
Faites parce que c'est important de reprendre, parce qu'il faut que l'activité reprenne, l'activité économique, que les gens soient pas complètement déprimés, parce que sinon ils vont s'énerver. Mais en même temps, on va pas non plus vous autoriser à faire n'importe quoi et on va pas porter en tant que collectivité publique, il y a une espèce de truc de responsabilité qui se transfère un peu.
Ce qui est logique,
qui est un peu. Qui génère aussi pas mal de tensions, de stress, quoi.
Qu'après, c'est plus évident, je trouve, à réfléchir sur le temps machine. C'est-à-dire que reprendre une activité, on en a beaucoup parlé, reprendre une activité masquée avec des cadrages au sol, etc., c'est pas l'idée qu'on se fait d'une salle de concert, de création de liens sociaux, etc. Donc, tu peux facilement te dire, bon, ben, on attend, on verra bien ce qui se passe. Bon, là, on a fait, par exemple, un ciné-concert parce que c'est moins anxiogène, on va dire. T'es vraiment comme dans une salle de ciné, donc ça, c'est plutôt chouette. Par contre, sur Terre du Son, ouais, quand tu bah, t'es en extérieur et que ça implique d'autres collectivités, c'est plus compliqué, ouais.
Oui, parce qu'au niveau du département de la région, j'imagine qu'il devait être un petit peu frileux aussi pour qu'il y ait ce genre d'événement.
Pas franchement, sur le département, on s'est posé la question à un moment de faire, parce que c'est eux qui sont propriétaires du domaine de Candé, donc on s'est posé la question de faire un petit événement au domaine, et ça s'est pas fait, mais c'est plus parce que c'était, parce que le moment où on s'est rendu compte, on va dire, que ça se détendait un petit peu et qu'on aurait pu faire quelque chose, c'était un peu tard pour l'organiser.
Oui,
donc ils ont, c'est plutôt pour des questions pratiques, ils nous ont dit, mais non, mais là, on a besoin d'anticiper plus les choses. Donc on ne fera pas à Candé. Par contre, du coup, sur des plus petits événements, le département et la région sont plutôt en soutien, enfin plutôt envie qu'on fasse des choses. Donc c'est pour ça qu'on va organiser des concerts ambulants, enfin quelques concerts dans différentes villes, pour quand même jouer ce rôle de lien social et puis aussi donner un peu la parole aux artistes qui sont un peu privés de privés de micro en ce moment.
Un peu comme un mini village ambulant.
C'est ça. On va en parler dans quelques instants, bien évidemment. Peut-être qu'on va se faire une petite pause musicale après tout ça.
Oui.
En 2020, devait être programmé du coup The Wild Classical Music Ensemble. Est-ce que tu veux nous en parler de petites secondes avant qu'on passe de leur musique?
Oui, allons-y.
Interro.
Alors, c'est un groupe belge. Enfin, belge. Il y a des Flamands et des Wallons, je ne sais pas exactement. Des Wallons, de Wallonie. Et donc voilà, la particularité de ce groupe, c'est que c'est un projet monté par, je me rappelle plus son prénom, mais par un batteur qui est aussi éducateur. Et donc du coup, il a monté ce groupe avec des personnes atteintes de soit de maladies, soit enfin comme par exemple la trisomie ou l'autisme, etc. Donc l'année dernière, on avait accueilli Astérotypie un peu sur ces qui était parisien un peu sur cette même envie de donner à voir ce que peut être aussi la pratique musicale. Ben voilà, la musique est ouverte un peu à tous. Et donc, du coup, ils ont une traduction musicale et sonore assez hallucinante et impressionnante. Donc voilà, il y a par exemple une basse qui est posée sur des trépieds et ils jouent de la basse en tapant, tu vois, un des musiciens en tapant avec une baguette sur la basse. Une chanteuse qui est assez... assez incroyable avec une voix, enfin voilà. En tout cas, j'aurais bien aimé que le public découvre ce groupe parce que pour les avoir vus en concert, c'est quand même assez percutant et touchant. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose. Et ils ont beaucoup travaillé, ils ont sorti le dernier album sur Born Bad Record, par exemple, pour ceux que ça intéresse.
Très bien.
Voilà.
Donc on s'écoute The Wild Classical Music ensemble avec Train Station.
Yeah. est en retard. Il est à l'avance. Il 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 est en retard.
The White Classical Music ensemble, donc avec Train Station, un groupe qui devait donc être sur La Prairie de Terre du Son en 2020, peut-être une autre, sur une autre édition.
2024.
Et donc voilà, je suis toujours avec Audran et Marilyn qui viennent nous parler de Terre du Son. On a évoqué aussi Le Temps Machine. Voilà, pour parler un petit peu de la situation actuelle de l'édition 2020 particulière. On parlait un petit peu de voilà, comment vous aviez vécu ce confinement, cette annulation. En termes économiques, du coup, puisque c'est aussi une grande question, comment est-ce que ça va se passer, du coup, pour vous
Mal.
On l'imagine, malheureusement.
Comme on a deux activités sur le festival, c'est 90% d'autofinancement, donc c'est 90% de recettes qui sont liées soit à la billetterie, soit au bar, restauration, soit à des sponsors qui forcément ne seront pas présents puisqu'il n'y a pas de festival. Donc en gros, on perd tout. On a des subventions aussi, subventions de collectivité et du CNM, Centre National de la Musique. Et en fait, là, pour le moment, c'est pas encore super clair. On sait qu'il y a quand même eu des engagements de la région, notamment de maintenir les subventions dans le domaine culturel. Donc ça, on ne peut que le saluer. Le département aussi va pas nous abandonner complètement. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, le volume d'aide publique qui sera en fait quasiment nos seules recettes ne va pas pouvoir couvrir la totalité de notre fonctionnement. On est quand même 4 salariés, on va dire. On est 16, mais on va dire grosso modo, on est 4 sur le festival. Ça fait évidemment. On a une grosse perte financière en perspective. Et ça, ça arrive après déjà quand même une année, une édition 2018 où on avait beaucoup perdu d'argent. Donc là, on est quand même dans une situation où effectivement, il ne faut pas se planter. Et puis, on a, on n'a pas non plus beaucoup de perspectives pour développer d'autres recettes d'ici juillet prochain. On a quelques projets, mais ça reste plutôt anecdotique sur le plan financier, même si c'est très important sur le plan artistique. On a un concert qui est prévu avec Gaël Faye en avril 2021. Voilà, donc ça va nous remettre un peu dans le bain, ça va nous permettre de réorganiser quelque chose avec le festival. Mais bon, c'est pas là-dessus qu'on va dégager beaucoup d'argent, même si c'était un petit peu présenté comme une soirée de soutien, c'est beaucoup un soutien moral. Après, il y a aussi quand même quelques festivaliers qui ont cédé généreusement leurs billets, qui ont demandé à ne pas être remboursés. Donc ça, c'est évidemment un soutien hyper important pour nous. Donc on remercie tous ceux qui l'ont fait. Et ceux qui ne l'ont pas fait, on leur en veut pas du tout non plus.
<Quand même. rire> En termes de programmation, du coup, comment ça s'est passé financièrement, du coup, avec les artistes? J'imagine que ça devait être compliqué pour tout le monde.
Assez simplement, disons qu'il y a eu quand même un gros esprit de solidarité du côté diffuseur, donc festival comme nous, mais aussi du côté des tourneurs qui font tourner les artistes, etc. On a pu voir dans la presse beaucoup circuler les histoires avec le Hellfest sur les assurances, etc. Donc oui. Voilà, enfin, je pense que le Hellfest devait être un des seuls festivals de France à avoir contracté une assurance et avoir peut-être gain de cause, donc c'est plutôt chouette pour eux. Mais après, c'est vrai que dans des conditions comme celle-ci, complètement inédites, tout le monde a joué le jeu. Normalement, en cas d'annulation, on est tenu en tant que diffuseur et producteur de reverser une part du cachet artistique pour le tourneur. Donc là, il y a eu quand même un gros élan de solidarité où tout le monde a dit que ces aspects-là ne seraient pas pris en compte. Donc du coup, ça veut dire qu'on n'avait pas de frais d'engagement là-dessus, contrairement à certains festivals qui, eux, avaient beaucoup de frais engagés, c'est-à-dire même en termes de montage, etc. On a eu la chance d'être...
dans une temporalité où il y avait un petit peu de temps avant.
C'est ça, donc quand tu dis que de toute façon ça va être compliqué sur une année, heureusement qu'on n'avait quand même pas trop engagé de choses sur 2020.
Quoi.
Ouais, c'est ça exactement. Donc niveau artistique, non, ça s'est fait simplement. C'est vraiment... Enfin, il y a vraiment un côté, on va dire, humain où on a tous discuté ensemble. Et voilà. Bon, après, c'est un peu triste de prendre son téléphone et appeler toutes les deux heures... Voilà, mais c'était comme ça et enfin voilà. En tout cas, ça s'est fait plutôt intelligemment puisque on sait qu'on aura tous besoin des uns et des autres pour les années à venir.
Et donc, justement, comment est-ce qu'on se reconstruit après ça ? Donc, Audran, tu parlais du concert de soutien. Est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues d'ici là ? Et puis d'autres incitations au soutien, je sais pas, d'une façon ou d'une autre.
Bah oui, on a un concert qui est calé en avril. En fait, au départ, on s'est dit que ce serait intéressant pour nous de caler plusieurs dates dans l'année de ce type-là, c'est-à-dire dans des salles relativement grandes. Là, en l'occurrence, c'est à Oesia. On aurait pu faire une date aussi à l'Escale ou avec des gens avec lesquels on est habitué à travailler. Après, vu que la question des tournées est un petit peu floue encore, on ne peut pas tellement programmer grand-chose sur l'automne. C'est déjà compliqué de caler une programmation sur le temps machine, puisqu'on cale des choses, on les enlève, on les remet, enfin bref, ça n'arrête pas de bouger. Donc voilà, sur avril, on s'est dit normalement c'est bon. Puis c'est le moment où normalement on annonce la totalité de la programmation du festival. Donc ce sera aussi une occasion de faire une sorte de premier lancement. Voilà. Après, on va organiser des événements en juillet quand même. Voilà.
Oui, ce mois-ci quand même.
Dans la souplesse et dans l'agilité.
Et pas juillet 2021.
Non, c'est là, c'est bientôt.
Voilà, dans pas longtemps.
Non, parce qu'ils sont réactifs.
C'est ça, voilà. Exactement.
Non, ils ont envie.
On avait envie quand même de ne pas être resté, on va dire, rester les bras croisés pendant la période
de... pendant le confinement, on le sait.
non, mais on a aussi, voilà, comme je le disais, on a aussi des bénévoles qui sont très investis à la année et qui ont aussi beaucoup d'envie et qui sont très frustrés de cette situation et qui avaient envie quand même d'être présents et puis de garder l'énergie dans l'association en maintenant un certain nombre d'événements. Alors évidemment, ça n'aura rien à voir en termes de jauge, on va être sur des événements assez petits, mais néanmoins ambulants dans différents lieux. Voilà, je ne sais pas si je les cite, si c'est le
c'est
moment.
Voilà. Voyez, hein.
Donc on va faire un premier concert le 11 juillet à Bléré, voilà, en partenariat avec le centre social, parce qu'à chaque fois l'idée est de monter ces dates en lien avec un acteur local pour pas débarquer et puis poser notre scène et puis repartir. Il faut quand même qu'il y ait un peu de sens et un peu de relais sur le plan local. Donc on a beaucoup travaillé avec les centres sociaux, donc le centre social de Bléré en l'occurrence le 11 juillet, centre social de Montlouis-sur-Loire le 17 juillet également. Voilà. Puis après, le 24, on sera à Descartes. Pas le lycée Descartes, non, ne vous trompez pas.
La ville
de Descartes. Voilà. Voilà, on monte ça plutôt avec la communauté de communes, pour le coup, avec les services jeunesse. Il y a une date, mais elle n'est pas encore absolument sûre à l'heure où je parle, donc je pense que je ne vais pas encore en parler, mais elle est très, très, très bien partie pour exister, donc je ne vais pas le dire quand même. Mais en tout cas, ce serait plutôt à Tours.
Une surprise, c'est dans le mois de juillet.
Ce sera le 25 juillet à Tours, on a un projet dans un quartier de Tours. Merde, je commence à trop en dire.
Voilà. Donc, restez vigilants.
Et après, l'idée, c'est quand même d'avoir une programmation un peu sous le même format chaque jour, c'est-à-dire un spectacle jeune public et deux groupes, pour avoir, bon, il y aura des associations groupes aussi, locaux. Etc. Oui, c'est ça, groupes locaux. C'était l'idée de faire vraiment avoir le mini village ambulant comme on le fait sur Terre du Son. Et voilà, on pourra retrouver des groupes comme Grosse Boutique, Perroquet, Calypso, Raphaël Guattari. Enfin voilà. Après, de toute façon, sur le détail de la programmation des jours et des lieux, vous en saurez plus sur le site. Mais enfin voilà, on va communiquer dessus de toute façon.
Très bien, ça va sortir très très rapidement. Et alors, comment on peut soutenir l'asso d'une autre façon que venir à ces concerts-là? Il n'y a pas de laisser votre billet, garder.
Bah, laissez votre billet, ceux qui ont acheté un billet,
tard,
qui l'ont. Non, c'est
non,
encore.
C'est encore...
En fait, en vrai, les remboursements, on avait donné une date et il y a effectivement pas mal de gens qui n'ont pas demandé le remboursement, même si ça reste évidemment minoritaire, ce qui est normal. On ne peut pas dire aux gens d'acheter des billets pour le festival annulé parce qu'on a fermé la billetterie. on n'a pas lancé un appel de crowdfunding ou quoi que ce soit pour nous aider. Je pense que le plus important, ce sera surtout de nous soutenir pour quand on remettra en place une billetterie pour l'édition prochaine.
Et
de se rappeler effectivement que des festivals comme les nôtres, on n'est pas du tout les seuls, hein, mais les festivals associatifs, ça reste des événements qui sont fragiles et qui partent d'un engagement citoyen et que venir dans des festivals comme les nôtres, ça n'a pas forcément le même sens que dans des grosses machines portées par des grosses entreprises. Que voilà, on espère que les gens en ont conscience. C'est pas forcément évident parce qu'on peut avoir des programmations artistiques qui peuvent se ressembler entre festivals mais avec des intentions derrière qui sont différentes. Donc voilà, là-dessus justement, notre syndicat, le SMA, a lancé on devait lancer aussi cette année une communication envers le grand public pour expliquer voilà que notre public n'est pas ici par hasard, c'est comme ça que ça s'est... Voilà, vous n'êtes pas là par hasard, qui est vraiment là pour expliquer en choisissant un festival associatif plutôt qu'un autre, et ben on peut être aussi dans une démarche de choix en tant que entre guillemets consommateur, d'orienter plutôt sa présence sur des initiatives qui ont du sens en termes de valeur et qui sont sincères et qui sont pas uniquement commerciales, économiques.
Très bien. Oui, je pense que c'est important de le rappeler aussi. Mmh. Très bien. Eh bien, je crois, je ne sais pas si vous avez un mot à rajouter pour nos auditeurs. En tout cas, c'était une belle façon de l'expliquer. On pourra vous retrouver donc ce mois de juillet. Vous suivez la programmation sur les réseaux sociaux, sur le site internet de Terre du Son, j'imagine.
Oui.
Pour aller voir les différentes dates. Donc, Amboise, Mont-Louis. Non, Bléré, Mont-Louis,
Descartes
et peut-être quelque part à Tours. Voilà, il faut rester au taquet sur les réseaux sociaux notamment. Merci à tous les deux d'être venus ce soir dans le Ghetto Blaster pour nous parler de tout ça. Puis on vous retrouve très rapidement sur la tournée de Terre du Son.
Merci.
À bientôt.
Merci, salut.